Les quatre saisons.
La politique est un cycle.
C'est le virus qui est maître du temps.
Une symphonie perpétuelle de déclarations, de promesses.
That's not Michael Jackson, hein?
Les échecs et les trahisons les plus douloureuses.
Ce sont les aléas de la politique.
Y rencontrent la gloire et les espoirs les plus vifs.
Je jure fidélité au roi.
Aussi sûrement qu'après l'hiver,
dehors.
Reviennent les beaux jours.
Dehors, dehors.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Salut Baptiste.
Bonjour Imad.
Cette semaine, on vous parle des différents plans de relance post-Covid.
Ah, c'est bien, c'est un sujet positif et printanier.
Ouais, enfin pas si vite. Quand on regarde le passé, il ne faut pas nécessairement se réjouir.
Les quatre saisons. La politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein.
Printemps.
Dans ce numéro, on va vous parler d'un terme qui devrait peu à peu remplacer celui de pandémie dans le vocabulaire politique.
Le plan de relance.
Plan de relance.
Plan de relance.
Plan de relance.
À tous les niveaux de pouvoir, on prépare la sortie de crise.
The Commission is today proposing a new recovery instrument.
750 milliards de moyens européens.
750 billion euros.
Dont la Belgique espère obtenir 6 milliards, un plan fédéral porté par le secrétaire d'État Thomas Dermine.
Et avec ce plan de relance, on va reconstruire la Belgique en mieux.
Le gouvernement y ajoutera encore 7 milliards supplémentaires.
On va investir dans des infrastructures fondamentales.
Auxquelles s'ajoutent des plans régionaux.
Guet
de Wallonia, qui prend son envol en Wallonie.
Une Wallonie qui peut se remettre à espérer après le drame de la Covid.
Pas vraiment d'alternative. On compte sur ces plans comme sur le vaccin.
Construire la Belgique de demain dans un monde de l'après-Covid.
Une injection de milliards dans l'espoir de remettre nos économies sur orbite.
C'est ensemble que nous réussirons.
Alors cette semaine, on s'est demandé ce qui pouvait garantir la réussite de tous ces plans de relance.
La crise du coronavirus, elle a révélé la nécessité d'investir dans le futur.
Parce que de mémoire francophone, à part le plan Marshall au lendemain de la guerre,
helping people to help each other. The Marshall Plan.
On n'a pas l'impression que les autres plans de relance aient fondamentalement changé la donne. La relance en Wallonie, ça fait plus de 40 ans qu'on en parle. La Louvière, un 1er mai au début des années 80.
Bien des entreprises voient s'ouvrir des perspectives encourageantes grâce à des aides en provenance du secteur public.
Pour la fête du travail, le socialiste Guy Spitals vante le plan d'investissement public.
Le programme adopté par le gouvernement sortant s'élève très exactement à 90 milliards.
Pour relancer la sidérurgie wallonne qui s'essouffle.
C'est énorme.
Énorme, mais ce ne sera qu'un coup de frein dans la désindustrialisation wallonne.
Nous n'avons plus de charbon, nous n'avons pas de pétrole, donc il reste les wallons. C'est ça l'énergie wallonne.
Deux décennies plus tard, en 1999, le gouvernement wallon prend la relance à bras le corps.
Aujourd'hui, nous déposons un projet de contrat d'avenir pour la Wallonie.
Et c'est déjà Élodie Roupaud qui propose ce contrat d'avenir.
Le gouvernement, il crée le cadre d'un développement. Mais c'est en fait chaque femme, chaque homme, là où il se trouve, qui va redresser la Wallonie.
Une recette qui ressemble étrangement à celle appliquée pour Guet de Wallonia aujourd'hui.
Le gouvernement va mettre tout ce qu'il peut mettre dans la balance et il faut que la société elle-même prenne le relais. Si on veut que la Wallonie se réinvente, il faut que chacun de nous, nous nous réinventons aussi.
Entre ces deux déclarations, plus de 20 ans ont passé et les plans de relance se sont enchaînés. 2002, le contrat d'avenir est actualisé et rebaptisé CAWA.
Le Parlement wallon a découvert aujourd'hui le CAWA, son nouveau contrat d'avenir actualisé.
Un CAWA qui n'aura pas eu le coup de fouet escompté, car début 2005, nouvelle version.
Le contrat d'avenir pour la Wallonie, 5 ans déjà, 3 versions.
Fin 2005, le gouvernement wallon lance son premier plan Marshall.
1 milliard sur 4 ans du jamais vu. Élodie Roupaud l'a appelé lui-même le plan Marshall.
Jean-Claude Van Kouwenberg, alors ministre-président wallon, l'affirme.
Non, ce n'est pas un énième plan.
Ce plan-ci est différent.
Ce sont des actions prioritaires.
2009, le plan Marshall se verdit.
Jusque-là, le plan Marshall de point vert était encore un peu flou.
Avec l'arrivée d'Écolo au gouvernement wallon.
C'est l'alliance emploi-environnement. Et là, c'est l'idée très claire d'aider le citoyen à
isoler sa maison. Que ce soit le toit, les fenêtres, les murs, le sol.
Par la porte ou par la fenêtre, cette relance wallonne a du mal à passer. 2015, le plan Marshall prend encore du galon.
Le fameux plan Marshall 4.0.
Alors, inutile, tous ces plans passés?
C'est énorme.
Sans doute pas. Mais leur seule succession démontre qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs jusqu'ici. Or, cette fois-ci, vu la profondeur et la combinaison des crises, on a comme le sentiment que l'échec n'est plus une option.
C'est ensemble que nous réussirons.
Et vous aurez sans doute reconnu James Brown qui nous invite donc à nous bouger. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour relever l'économie wallonne, mais en tout cas, ça fait du bien. Ce sera dur, mais les Wallons s'en sortiront. C'est Guy Spittles qui avait fait campagne avec ce slogan en 1981. 40 ans plus tard, est-ce que Get Up Wallonia, qui est toujours en gestation, fera la différence? Et pourquoi est-ce qu'un échec serait vraiment très préjudiciable à la Wallonie? On va parler de tout ça avec toi, Imad, comme chaque semaine, et on est aussi avec Maxime Paquet aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour Maxime.
Maxime. Excellent, Maxime Paquet.
Qui est donc notre collègue journaliste économique à la rédaction de la RTBF. Maxime, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de l'efficacité des plans actuels de relance, donc fédéral et wallon, au vu de l'enchaînement de tous ces plans wallons qu'on vient d'entendre?
En tout cas, on a raison de se poser la question dans la mesure où Get Up Wallonia est clairement présenté comme un plan de redéploiement de la Wallonie. Donc en termes de communication, de narratif, d'objectif, c'est la même chose. Ce qui change fondamentalement la donne aujourd'hui, c'est que le plan fédéral, le plan européen de relance, il s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire, économique, globale, et que donc le contexte est complètement différent. La Wallonie va devoir prendre des réformes, changer la donne, se relever, alors que tout autour d'elle, nos voisins néerlandais, français, allemands, font la même chose.
Avec une concurrence donc avec ces pays-là.
Le risque majeur, très clairement, c'est que dans plein de secteurs différents, en Wallonie, on ne puisse pas être concurrentiel, à la page ou compétitif par rapport à ce qui se fait chez nos voisins néerlandais, allemands, français à nouveau, parce qu'eux aussi sont en train d'injecter des milliards d'euros dans leurs propres économies, dans de la recherche, dans de l'innovation, et que donc cette course, elle est lancée partout dans le monde, mais en ce qui nous concerne plus précisément, elle est lancée en Europe. Et donc est-ce que la Wallonie va réussir à, dans un même mouvement, se relever de la crise qui l'a touchée comme tous les autres, et en même temps de redresser, de rattraper un retard qui a des décennies maintenant, ça je pense qu'on l'aura compris. Ça c'est le véritable défi qui se pose à la Wallonie aujourd'hui.
Vaste défi, effectivement, défi futur. On va faire un retour en arrière avec toi, Imad, sur ces différents plans. Est-ce que tu peux nous proposer un bilan un peu plus circonstancié, un peu plus précis que ce qu'on a donné dans la partie sonore de
c'est
ce podcast?
C'est pas simple. Donc alors, il y a 7 plan au total en 20 ans. C'est un plan quasi tous les 3 ans.
Ça fait
alors,
beaucoup. Hein.
Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Je suis allé à l'ULB poser la question à Kenneth Bertram, s'il est historien de l'économie à l'ULB. Alors, sur le bilan lui-même, on va l'entendre, c'est pas très folichon.
C'est un bilan plus que mitigé, avec d'une part, sur le plan des chiffres, des déceptions à l'arrivée. On peut aussi se demander, et c'est une question réelle que je me pose, dans quelle mesure les plans successifs n'ont pas renforcé des secteurs qui étaient déjà en bonne forme et n'ont rien fait pour aider ou stimuler ceux qui n'étaient pas forcément en pleine capacité. Ça, c'est un vrai problème. Mais d'autre part, et là je serai un peu positif, c'est que, en tout cas à partir du plan Marshall, il y a eu cette stratégie qui a consisté à fonctionner par pôle de compétitivité. Et ces pôles, qui n'étaient pas forcément acquis au départ, ont permis d'identifier des axes forts, de concentrer peut-être l'aide ou les soutiens à l'investissement dans une série de secteurs et de ne plus jouer cette carte de l'éparpillement qui était un petit peu la norme jusqu'à ce moment-là en matière de soutien à l'investissement et de politique publique pour l'économie.
Ici, il parle des pôles de compétitivité. Maxime, tu nous rappelles exactement ce que c'est? Ils sont nés sous le plan Marshall, le premier plan Marshall.
Effectivement, donc on a des Biowin, des Mecatech, des Skywin, ce sont des pôles qui
regroupent... Ça veut dire quoi?
Alors, ça regroupe des acteurs économiques, donc de l'industrie, des entreprises, mais aussi des centres de recherche universitaires. Et donc, le but de ces pôles, c'est, quelque part, dans une logique à chaque fois sectorielle, par exemple pour l'aéronautique, de regrouper tous les acteurs qui sont susceptibles de se regrouper autour de projets et de faire avancer des projets innovants, à nouveau, de mettre sur pied quoi que ce soit qui puisse à un moment donné être vendu, exporté et faire la différence au niveau économique.
Et tu pourrais nous donner quelques exemples de ces grands secteurs dans lesquels la Wallonie investit pour l'instant et a investi jusqu'ici?
Oui. Donc on a Skywin, aéronautique, ça clairement c'est un gros secteur. Biowin encore pour un nom de ces pôles, donc biotechnologie, biopharma, c'est clairement un des secteurs qui aujourd'hui tire son épingle du jeu en Wallonie. On a Wagralim pour l'industrie agroalimentaire qui est un des acteurs majeurs pour l'exportation de biens hors de Wallonie. On a Greenwin pour tout ce qui est technologie innovante liée à l'environnement. Voilà quelques exemples de ce qui se fait, de là où on appuie, où on essaie d'appuyer en Wallonie.
Ouais. Donc, merci pour cette précision sur les pôles de compétitivité. Pour faire un petit retour en arrière, Imad, on a bien compris que le bilan tiré par Kenneth Bertrams de l'ULB, il est franchement pas terrible.
Il est pas terrible. Et puis, alors, dans l'interview, il me disait bah, vous ferez l'exercice vous-même par rapport aux chiffres. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne le taux d'emploi, ce qui était un des objectif explicite d'Eliodie Roupaud en 99, bah c'est quand même pas fameux. En 99, la Wallonie était environ 10% en dessous de la moyenne européenne du taux d'emploi. Donc le taux d'emploi, c'est le nombre de gens au travail entre 20 et 64 ans. Et donc 20 ans plus tard, le taux d'emploi wallon en 2019, donc avant Covid, on frôlait les 65%, alors que la moyenne européenne, dans le même temps, a grimpé à quasi 74%. Donc le gap, la différence, n'a pas nécessairement beaucoup évolué en faveur des Wallons. Alors Maxime, est-ce que c'est sans espoir pour la Wallonie ?
Sans espoir, certainement pas. Je dirais que l'une des grandes forces de la Wallonie aujourd'hui, c'est un territoire qui est très bien situé. Donc ça, ce n'est pas nouveau, mais ça va jouer. Ce territoire, il est petit et il concentre quand même sur un territoire très très restreint, sur un mouchoir de poche en fait, des industriels, des entreprises, des labos, des centres de recherche. Et on est aujourd'hui à un moment charnière où, parce que cette crise Covid-19 amène aussi des injections, des milliards dans l'économie avec des projets environnementaux, où il va falloir que les différents acteurs se parlent. Et donc là où des grands pays qui ont une force de frappe financière beaucoup plus grande, comme l'Allemagne ou la France, vont parfois sans doute avoir du mal à faire en sorte que des acteurs qui sont à 400, 500 km d'écart se parlent, en Wallonie, là je crois qu'il y a une vraie carte à jouer. Par contre, à nouveau, le risque, c'est que si ça ne marche pas, ce mouchoir de poche dans lequel il y a plein de connaissances, il y a plein de compétences, il y a plein de possibilités, deviennent en fait un désert industriel. Ça, c'est le vrai risque.
Et en plus du problème conjoncturel et économique actuel qui est lié à cette crise du Covid, un vrai problème économique, mais ouais. Il y a aussi un problème politique que la Wallonie va devoir affronter. Il est lié à la 6e réforme de l'État qui prévoit que les transferts nord-sud, donc l'argent qui vient de la Flandre, de Bruxelles vers la Wallonie, la solidarité fédérale, ouais. Que cette solidarité, elle s'estompe à partir de 2025 de 10% graduellement chaque année pendant 10 ans. En gros, ça fait une perte de recettes de 600 millions d'euros par an. Ouais. C'est énorme. Donc ça veut dire que soit on augmente les impôts, soit on diminue les dépenses, soit on crée de l'activité. Oui. Maxime, dans cette équation, qu'est-ce qui va permettre à la Wallonie de la résoudre ? La formation ?
Alors, la formation, c'est un mot-clé qui est sur toutes les lèvres. Je dirais que malheureusement, la formation, elle est sur toutes les lèvres depuis 20 ans maintenant. On n'a toujours pas réussi, au sein de la région wallonne, à faire en sorte de ne pas reproduire de génération en génération un pourcentage conséquent de la population qui manifestement n'a pas de travail. Alors il y a plein de raisons qui font que on a un taux d'emploi qui est inférieur à la moyenne européenne et largement. Mais oui, la formation, ça doit être une réponse. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de qualification. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on ne va pas en faire des post-doctorants dans les 3 ans. Et donc, il ne faut pas oublier non plus de miser sur des secteurs, notamment l'économie sociale, qui en plus sont tournés vers des enjeux environnementaux la plupart du temps et qui, eux, sont intensifs en main-d'œuvre et la plupart du temps intensifs en main-d'œuvre plutôt peu qualifiés.
Et on rappellera que la formation, c'est le premier objectif des 50 mesures prévues par le plan Guido Polonia pour l'instant, mais c'était déjà le cas dans les plans précédents.
La formation a toujours été la priorité de tout le monde depuis 20 ans.
Alors Maxime, quand même un petit mot sur le fait que donc on va avoir une conjonction de différents plans et donc une injection de beaucoup d'argent en Wallonie. Est-ce que c'est maintenant ou jamais ?
C'est maintenant ou jamais, je dirais de manière générale, parce que c'est maintenant ou jamais qu'il faut non seulement se redresser, se relever d'une crise certes courte, de 1 an, hein, la crise Covid, c'est maintenant qu'il faut réformer sans doute ce qu'il y a matière à réformer en Wallonie. La formation, c'est urgent, on l'a abordé. Et c'est maintenant qu'il faut relever aussi le défi environnemental. Donc ça veut dire que c'est maintenant qu'il y a cette conjonction d'opportunités, de risques, mais qu'il faut y aller. Et à nouveau, si on n'y va pas, d'autres le feront. Donc s'il n'y a pas demain les acteurs wallons qui se parlent, qui mettent sur pied des projets de manière rapide pour effectivement densifier le tissu économique wallon, je crois que c'est ça le vrai défi, dans 10 ans, on se retrouvera avec un tissu économique wallon qui non seulement ne se sera pas redressé, mais en plus se sera vidé de sa substance et il n'y aura plus grand-chose à voir sur la carte économique wallonne.
L'une des conclusions que tirait le professeur Bertrams dans l'interview, c'était de dire que les acteurs privés qui avaient été massivement soutenus depuis, qui sont massivement soutenus depuis 20 ans, n'avaient pas vraiment joué le jeu. Il y avait eu une mutualisation du risque, mais les bénéfices avaient été privatisés d'une certaine façon. Lorsque les soutiens s'arrêtaient, le privé ne continuait pas. On tape beaucoup sur la Wallonie, le fait que les gens n'entreprennent pas assez. Mais même parmi celles et ceux qui entreprennent, il y a parfois quand même une sorte d'effet d'aubaine, c'est ce que disait le professeur, et qui malheureusement ne permettait pas à la Wallonie de se développer.
Oui, je crois que chacun doit un peu se regarder le nombril sur les 20 dernières années, et je pense que si effectivement des effets d'aubaine il y a eu côté entreprise, et parfois elles n'ont pas toujours joué le jeu, et en termes de formation, elles ne jouent pas toujours le jeu, je crois que c'est vrai, on peut l'admettre. De l'autre côté, les pouvoirs publics n'ont pas toujours joué le jeu non plus, parce qu'ils n'ont pas évalué correctement leur politique, parce qu'ils ont parfois décidé au doigt mouillé des secteurs qu'on allait aider, porter à bout de bras la sidérurgie pendant 15 ans, alors qu'elle est déjà en plein déclin. Est-ce que ça a du sens ? Pas forcément. Et donc les pouvoirs publics ont-ils été les visionnaires, régulateurs forts et partenaires malins qui finalement se sont retrouvés face à un privé qui n'a pas joué le jeu ? Ça, je crois que c'est un petit peu court aussi. Tout le monde doit y aller, c'est un slogan. À un moment donné, entre le régulateur qui injecte de l'argent, qui sert de moteur à l'innovation, et le privé qui va récolter une partie des bénéfices, il faut placer un curseur qui soit celui de la bonne entente mutuelle et dans lequel on va enfin, dirais-je, se décider à avancer.
Et alors surtout peut-être de vraiment essayer d'avoir des bilans réguliers, objectifs, et pour pouvoir éventuellement changer la course du paquebot wallon si on se rend compte que ça ne va pas.
Je pense que le manque cruel, voire l'absence de culture de l'évaluation politique en Wallonie, mais je dirais même en Belgique de manière générale, doit être corrigé d'urgence.
Mais on retiendra quand même qu'il y a quelques opportunités en Wallonie pour cette relance, pour rester sur une note positive. Merci Maxime de nous avoir aidé à décoder ces enjeux de la relance, thème printanier s'il en est. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des 4 saisons.
Salut.
Les 4 saisons, un podcast de Baptiste Tupin et Imad Messoudi, mis en musique par Jérémy Boquet. Thank you.